faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Nous sommes sur l'une des collines qui domine le haut plateau d'Addis Abeba en Éthiopie. Et lui, naturellement, c'est Abebe Bikila, 1m76, 32 ans, phénomène de la nature ou nature-phénomène. Souvenez-vous, il y a 4 ans, c'était Rome. Une victoire remportée avec plus de 4 minutes d'avance et pieds nus sur l'élite mondiale de la course de fond.
Merveilleuse voix que celle de François Chalais à la télévision française en 1964. Mais qui se souvient encore aujourd'hui d'Abebe Bikila, légende du XXe siècle tombée en jachère dans la mémoire occidentale? Pas grand monde, je présume, et pourtant, entre Mussolini, l'Éthiopie, Élie Sélassié, l'Italie, l'obélisque d'Axum ou l'arc de Constantin, quel destin extraordinaire et quel moment historique à Rome lors de ce marathon du 10 septembre 1960. Des mois, oui, des mois, je vous dis, qu'on guette une opportunité pour vous en raconter l'histoire. Et voici que cette rentrée littéraire nous offre, de la plus belle manière, le récit de ce premier champion olympique de l'Afrique noire. Je vous rappelle son nom, Abebe Bikila, prince berger d'Éthiopie. C'est donc l'un des romans à ne pas louper en cette rentrée. Je suis persuadé qu'il sera sur des listes de prix littéraires, vous verrez. Son titre, « Vaincre à Rome » aux éditions Actes Sud, petite prouesse d'écriture. Vous aurez la sensation de courir ce marathon avec Abebe Bikila. J'en suis sorti secoué, son auteur est à la table ce soir et j'en suis ravi. Sylvain Coeur, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu.
Merci.
Et puis à vos côtés, c'est un ami de la maison. Il était là à la toute première émission il y a 4 ans. Il a son rond de serviette, mais il est aussi et surtout historien de l'Italie et historien du sport aussi. C'est toujours un plaisir de l'accueillir. Fabien Archambault, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue chez toi, évidemment. Et puis juste avant le journal de 19h, le Give Me Five signé Joy Raffin. Salut Joy.
Salut Colin, bonsoir à tous.
Le programme ce soir.
Ah, moi je suis hyper optimiste.
Ah.
Et si cette année, l'espoir venait du sport,
ben
Colin?
Pourquoi pas alors?
Et on espère, on croise les doigts.
Rendez-vous à 18h50. Et enfin, j'ai une pensée ce soir pour Dominique Besnéard, qui nous a accompagnés ici pendant 2 saisons, tous les dimanches soirs, et qui va se consacrer cette année au tournage de la nouvelle saison de 10%. C'est worldwide. Non, maintenant, Dominique Besnéard, il est mondial. Dominique, nous te souhaitons succès, nous t'embrassons, et surtout une santé de fer, une big up pour Dominique Besnéard. 5e saison, c'est parti. Vous êtes bien sur France Inter et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors cette saison, on commencera cette émission chaque semaine avec un intellectuel qui cause de sport, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et ce soir, on amorce cette série avec Gilles Deleuze et son abécédaire. Deleuze qui, à travers le tennis, a démontré que l'histoire des sports s'apparente à l'histoire des arts. Il y a les créateurs et les suiveurs. Deleuze, penseur subtil et populaire, raconte-moi le sport, Gilles. Nouvelle séquence à la virgule géniale.
Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.
C'est très intéressant le sport, parce que c'est la question des attitudes du corps. Et puis ce qui m'intéresse beaucoup, alors on revient un peu au problème de style, c'est les champions qui sont vraiment créateurs. Il y a deux sortes de grands champions qui n'ont pas la même valeur pour moi, les créateurs et les pas créateurs. Les pas créateurs, c'est ceux qui portent un style déjà existant à une puissance inégalée. Je dirais par exemple Lendl, il n'est pas fondamentalement créateur. Et puis en tennis. Et puis les grands créateurs, c'est-à-dire, même au niveau, pour parler tout simple, ceux qui inventent de nouveaux coups, qui introduisent de nouvelles tactiques, c'est Borg qui a assuré. Pourquoi? Parce qu'il a amené le style d'un tennis de masse. Il a fallu qu'il le crée, lui, de bout en bout. Fond de cours, liftage, balle haut, c'est le contraire des principes aristocratiques, c'est les principes populaires. Simplement, quel génie il fallait. Parce que Borg, c'est exactement comme le Jésus, comme le Christ. C'est un aristocrate qui va au peuple. Et il y avait McEnroe, qui lui était un pur aristocrate. Une espèce d'aristocrate, moitié égyptien, moitié russe, service égyptien, âme russe, qui lui inventait ses coups, dont il savait que personne ne pourrait le suivre. Ça, c'est l'aristocrate qui ne peut pas être suivi. Alors, qui en effet inventait des coups prodigieux, notamment. Il a inventé un coup qui consiste à poser la balle. Très curieux, quoi. Il la frappe même pas, il la pose, quoi. Un autre grand, alors, qui n'a pas la même importance, je crois, c'est Connors, qui lui, alors, on voit bien le principe aristocratique de la balle plate et rasant le filet. Ça, c'est un principe aristocratique très, très curieux. Et frappé en déséquilibre. Jamais il n'a autant de génie que quand il est complètement en déséquilibre. Bon, c'est des coups extrêmement curieux. Bon, il y a une histoire des sports, mais il faudrait dire ça de tous les sports. Quoi. Leur évolution, les créateurs, les suiveurs, les... C'est exactement comme dans les arts, quoi. Il y a les créateurs, il y a les suiveurs, il y a les changements, il y a les évolutions, il y a l'histoire, quoi. Il y a un devenir du sport.
Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est l'ennui. Parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en vrille. Je fais rien toute la journée. Je bascule dans la déprime. Et je sais même pas pourquoi. Je fais n'importe quoi. Faudrait voir un psy. Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est l'alcool. Ça commence par un verre. Et mes principes s'envolent. Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est les autres. Quand j'essaye de rentrer, ils me poussent à la faute. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai.
S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? Dis-moi, dis-moi, dis-moi.
Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est le stress. Quand les problèmes arrivent, je bloque et je délaisse le reste. J'arrive plus à penser, donc il faut que je décompresse. Mais je vais beaucoup trop loin, je contrôle plus rien, y'a plus de gentillesse. Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est la peur. Quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs. Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est l'ego. Il me pousse à séduire, à posséder les choses. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai.
S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir?
Dis-moi, dis-moi, dis-moi.
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 Dis-moi, titre signé Aurel San, grand fan de basket américain Aurel San. Mais ce soir, il est surtout question chez nous de course à pied. Voici l'histoire du dimanche soir. C'est l'un des romans à ne pas louper en cette rentrée littéraire. Vaincre à Rome, c'est le titre, et le récit commence ainsi. Samedi 10 septembre 1960, nous sommes à Rome, près du Capitole de Michel-Ange et des ruines du Forum romain. C'est l'avant-dernier jour des Jeux Olympiques, le dernier jour du calendrier éthiopien. On se prépare au marathon, l'ultime épreuve de ces Jeux. On fait des petits sauts presque sur place, on respire à fond et on s'apprête au départ. Dans quelques secondes, il sera 17h30, l'heure attendue par les 69 concurrents de ces 17e Olympiades. Il fait 23 degrés et la nuit tombera vite, car le changement d'heure n'existe pas encore. Ceci n'a rien d'un marathon, c'est la guerre.
Le marathon de Rome en 1960 est unique dans l'histoire. D'abord, on donne pour la première fois le départ au cœur d'une ville. Parmi les 69 concurrents, un homme venu d'Éthiopie attire particulièrement l'attention du public. Cet homme court pieds nus et sans souffrir. Des projecteurs drapent la ville d'une lumière extraordinaire qui rend la chevauchée d'Abebe Bikila encore plus légendaire. Beaucoup d'opinions s'accordent alors à penser que les Africains ne sont pas résistants. Terrible démenti. Apporté par ce soldat de l'armée du Négus, inconnu du grand public, et qui va l'emporter avec une facilité déconcertante. En 2h15, nouveau record olympique. Quant à l'histoire de l'Italie, elle va prendre une sacrée gifle. Un Éthiopien gagne le marathon sous l'arc de triomphe de Constantin, l'endroit même où les troupes fascistes de Mussolini avaient pris le départ pour envahir l'Éthiopie.
Destin extraordinaire que celui d'Abébé Bikila. Sylvain Coher, vous êtes donc l'auteur de cette petite prouesse littéraire qui s'appelle « Vaincre à Rome », c'est aux éditions Actes Sud. Pour commencer, Sylvain, vous êtes né en 1971. Comment est entrée cette légende du marathon dans votre vie, Sylvain ?
Alors, complètement par hasard, pour lors d'une fin de soirée devant la télévision, et un documentaire sur les géants du sport ou les dieux du stade, je sais pas comment ça s'appelait. Où on voyait ce personnage filiforme, très gracieux, très léger comme une plume, en train de courir dans une image un petit peu sale, une image des années 60, grésillante. Et j'ai été complètement fasciné par cette silhouette et peut-être parce que alors je me suis posé la question pourquoi je suis pas particulièrement attiré par l'athlétisme ou le marathon. Mon sport serait plutôt la voile. Mais en voyant ce type courir, je trouvais qu'il y avait une espèce d'évidence sur peut-être les racines du sport. C'est-à-dire un acte sans muscles, sans démonstration physique exceptionnelle, sinon quelque chose qu'il faisait, qui fait courir quasiment par la volonté. Et en baissant un peu le regard sur l'image, on voit qu'il court pieds nus, en effet. Même si dans les archives que vous venez de passer, on entend que tous les regards sont braqués sur ses pieds, c'est pas vrai du tout, parce que au départ de ce marathon, il est noyé dans la foule et personne ne le regarde.
Et surtout, il fait nuit très vite.
Il fait nuit sur la deuxième partie du parcours, mais au départ, non, c'est une image très claire qui est filmée. Personne, aucune caméra ne se pose particulièrement sur cet Africain qui court. La légende veut que même au bout de quelques kilomètres, une femme soit venue vers lui avec des chaussures en pensant que c'était encore un Africain qui n'avait pas les moyens de se payer des chaussures. Et en fait, ce type qui court pieds nus va gagner ce marathon. Et moi, j'ai eu une envie d'en savoir plus. Sans me douter que Abebe Bikila, c'est une commode à tiroir. Et que derrière ce personnage-là, j'ai découvert petit à petit que oui, c'était le premier champion olympique d'Afrique noire. Qui courait pieds nus,
qu'il est éthiopien.
Les guerres
italo-éthiopiennes,
voilà. Et c'est vraiment, enfin, chaque tiroir comme ça était rempli. Et puis par-dessus tout, cette vie, la vie qu'il a eue, qui est une vie pour un romancier, c'est trop presque. Mm-hmm. Enfin, c'est une vie de quasiment de martyr.
On va y revenir, bien sûr. On va y revenir. On va le développer, cette vie extraordinaire. Fabien Archambault, tu es historien de l'Italie, historien du sport aussi. Je sais que tu as lu ce roman de Sylvain Coher. C'est une victoire sportive et politique. C'est aussi un marathon pour l'histoire, Fabien, parce que nous sommes en plein contexte de décolonisation. Cette victoire d'Abebe Bikila, elle a un sens mondial énorme à cette époque-là.
Ben oui, c'est les premières. Bon, vous l'avez dit, c'est la première fois qu'un pays d'Afrique noire remporte une médaille d'or. C'est la première fois. Alors, c'est pas que l'Éthiopie participe aux Jeux Olympiques, mais c'est là que l'Afrique fait son entrée sur la scène olympique, qui jusqu'ici était, on va dire, depuis 52 et l'entrée de l'URSS dans le mouvement olympique, les Jeux Olympiques, c'était l'occasion d'une guerre froide, d'une course froide aux médailles. Et là, il y a un troisième protagoniste qui rentre, c'est l'Afrique noire. Donc on est en plein contexte de décolonisation. Mais c'est pas un hasard si c'est l'Éthiopie, enfin si c'est un Éthiopien qui gagne. C'est qu'il y a un grand prestige de l'Éthiopie en Afrique. C'est que dans la première moitié du XXe siècle, depuis la fin du XIXe siècle, le seul pays indépendant,
absolument,
avec le Libéria, mais qui est un tout petit pays, c'est l'Empire d'Éthiopie, parce que justement, c'est la seule puissance africaine qui a réussi à résister aux colonisateurs européens, c'est à la fin du 19e.
Et en effet, ils sont indépendants depuis très longtemps, les Éthiopiens. Sylvain, on va juste revenir un tout petit peu en arrière. Il est né le 7 août 1932 à Abebe Bikila, en Éthiopie. À quoi ressemble sa vie dans les années 50? C'est un militaire, en fait, c'est bien ça, hein?
C'est, alors, je... de ce que j'ai pu glaner comme comme information biographique, c'est un berger. Enfin, c'est un berger, fils de berger, des hauts plateaux, enfin d'une région qui est, je sais plus, à 200 kilomètres d'Addis Abeba. Il va s'engager à 17 ans pour devenir, pour rejoindre la garde royale du Négus, de Haïlé Sélassié, de l'empereur.
Donc il est empereur éthiopien, absolument.
Pour manger. Voilà. Son père avait un peu participé à la guerre. Lui-même, alors après dans les biographies, il y a plein de choses et le contraire. C'est un peu dur de trouver la vérité. On raconte même qu'il a vu à 3 ans passer la Rolls de Sélassié dans son village. Bon, si on enlève tout cette chose un peu folklorique, il reste que son père fait partie des Abernoches, qui ont été les paysans qui ont été se battre aussi contre les Italiens avec peu de moyens. Dans une guerre qui est quand même une guerre sale, cautionnée par la Société des Nations, un scandale historique de ces années-là, où les Italiens ont utilisé du gaz de l'hypérite, du gaz moutarde. Il a 3 ans, quand il monte à Addis Abeba, il a 17 ans, il devient militaire
dans la guerre impériale,
comme tous les paysans qui rejoignent la guerre impériale. Il aime le sport, il est plutôt doué, alors sur des sports complètement variés, pas particulièrement l'athlétisme, et il s'entraîne pendant 2 ans tout seul avec les autres militaires, pour l'athlétisme, pour la course.
Fabien, un mot sur ces rapports entre l'Italie et l'Éthiopie. Ce n'est pas rien, c'est un symbole immense que cet Éthiopien gagne à Rome. On sort de 2 guerres, on les a rapidement évoquées, italo-éthiopiennes, dont une contre Mussolini et le fascisme. Cette victoire d'Abebe, elle est aussi forte de ce background, j'ai envie de dire, historique.
Oui, tout à fait. Donc, on a parlé de la première guerre d'Éthiopie, donc en 1895-1896, ou en 1896 à Adoua. Des armées noires africaines battent les armées italiennes.
Européenne, oui,
le fascisme construit en partie son image de « on va relever l'Italie qui est une nation prolétaire, une petite Italie libérale qui n'est pas capable de restaurer la grandeur de l'Empire romain ». Et voilà, entre octobre 35 et mai-juin 1936, avec la complicité bienveillante et passive de la France et de l'Angleterre, l'Italie prend sa revanche sur l'Éthiopie et a servi l'Éthiopie qui est dans la foulée, on proclame la renaissance de l'Empire romain.
Oui, mais c'est pas rien quand même du coup.
Donc c'est un des grands moments de la propagande fasciste et surtout ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une très grande popularité de cette guerre d'Éthiopie. C'est-à-dire que l'entreprise coloniale italienne, on peut dire que la société italienne a été enthousiaste que l'Italie prenne cette revanche. Et même, on a des exilés antifascistes qui, face au début, avec la SDN, il y a des tractations, la France et l'Angleterre, la position n'est pas claire au début, qui écrivent à l'ambassadeur d'Italie, qui est un fasciste, en disant « on est avec vous ». Donc, de ce point de vue-là, c'est la mauvaise conscience coloniale italienne avec le régime fasciste, utilisé par le régime fasciste. Tout ça ressurgit au moment de cette victoire d'Abebe.
Sylvain Couillard, il y a un autre personnage qui est important dans cette histoire de victoire à Rome d'Abebe Bikila, c'est Onni Niskanen, qui est son entraîneur d'origine européenne. Qui est-il et quel est son rôle en quelques mots? Qui est Onni Niskanen?
Alors, c'est un Suédois d'origine finlandaise,
voilà, c'est ça, absolument.
Qui a un parcours complètement incroyable, parce que c'est un militaire qui va... Alors, je vais être un peu flou parce que j'ai pas retravaillé mes notes et c'est un peu loin maintenant, mais il va être sous un commandement d'une personne, d'un Suédois qui lui-même est installé en Éthiopie. Il va y aller comme ça. Et puis il va se consacrer, avant de rejoindre la Croix-Rouge, parce que c'est aussi...
Voilà, il travaille pour la Croix-Rouge, c'est ça qui est important.
Le patron de la Croix-Rouge en Éthiopie. Il va s'occuper du sport. Voilà. Il va entraîner les athlètes. Il va entraîner les deux plus grands athlètes de l'époque en Éthiopie, qui sont Abebe Bikila, sur le tard, on va revenir là-dessus, parce que Abebe Bikila est arrivé aux Jeux Olympiques quasiment par hasard, ça fait partie de la légende aussi.
Ça, on peut le raconter rapidement, c'est qu'en fait, il y a un coureur qui va se blesser.
Voilà. Il prend le bus quasiment au dernier moment, voilà. Et il a derrière lui des rumeurs de score de 2h20 oui. Au marathon.
Voilà. Alors on raconte ça.
Voilà, non officiel.
On raconte qu'il court très bien, voilà. Très vite, mais on ne sait pas vraiment. Il y a un coureur qui se blesse, voilà. Donc il vient remplacer ce coureur qui se blesse.
Personne ne le connaît trop.
Voilà. Il monte dans le bus un peu au hasard.
Le champion de l'époque, Emma World, qui est celui qui doit gagner. Et donc, il fait un petit peu figure de... Enfin, c'est un figurant, un petit peu. Enfin, il est un peu vu comme ça, même par la presse. Personne ne sait orthographier son nom. Personne ne parle de lui. Il n'y a que deux journalistes qui parlent de lui parce qu'ils sont dans le même hôtel à Rome. Mais c'est vraiment un inconnu et il commence ce marathon comme un inconnu.
Et d'ailleurs, toute la stratégie de Niskanen, c'est de courir en inconnu. Il va donc lui apprendre ça, tu vas courir caché. Voilà, on ne doit pas savoir que tu es le performateur, tu cours caché et au dernier moment, tu sortiras du bois. Et donc, toute la course, il va la faire caché dans le peloton, quelque part. Enfin, il va se mettre un tout petit peu en discrétion, ce qui est assez un coup de génie de Niskanen.
Alors, c'est un coup de génie et puis c'est quelque chose de très particulier pour l'époque, peut-être pour 1960, c'est que Niskanen est suédois. C'est un ami de Gösta Hollander, le concepteur du fartlek, c'est-à-dire de nouvelles techniques pour courir, qui sont des techniques très diversifiées. Il va lui faire faire du basket et du tennis, ce que, par exemple, les grands athlètes russes en 1960 ne faisaient pas forcément. Ils étaient très spécialisés, c'était un type de sport. Lui, il va diversifier son entraînement et il va prendre un petit peu tout ce qui existe dans le fartlek suédois, c'est-à-dire l'idée que toutes les contraintes du terrain deviennent des avantages. S'il y a des rochers, on saute par-dessus le rocher, on accélère, on ralentit. Et cette course comme un jeu, je pense, si on reprend l'histoire du marathon, je crois que le premier marathon qui a été remis par Coubertin, c'était un berger grec qui l'avait gagné. Et c'était encore une fois un berger. C'est-à-dire, dans ses déclarations, Abebe Bikila va dire plusieurs fois, moi, ce type de course, je le fais derrière, je peux le faire derrière le bétail. Enfin, c'est une course-jeu. Voilà. Et je pense que cette chose-là est importante et on reparlera peut-être du parcours très particulier de Rome, mais c'est quelque chose qui était favorisant pour lui aussi, de pas avoir forcément directement un parcours sur piste, mais un parcours où il fallait s'adapter avec des pierres, avec des dangers sur la route.
Ouais. Il est 18h33 sur Inter, c'est le retour de l'orchestre emmené cette fois par Giulia De Palma, un tube 1960, c'est ce qu'on écoutait à la radio italienne pendant qu'Abebe Bikila courait, comme et prima, ainsi soit-il.
La notte come allora magica scende, la luna splende e tu sei qui. Mi sento un po' confusa, non so capire e ti so dire solo così. Come prima, più di prima t'amerò. Per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò, come prima, più di prima t'amerò. Come prima, più di prima t'amerò. Per la mia vita ti darò. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò. Come prima, più di prima t'amerò. come prima, più di prima, t'amerò.
L'œil du tigre.
Avec Abebe Bikila, tout a commencé par les pieds. Des millions de gens n'ont connu du vainqueur du marathon de Rome il y a 4 ans que ses pieds nus trottinant sur les dalles usées de la Via Appia aux portes de Rome. Ses pieds nus consacrèrent Bikila, très très grande vedette de l'athlétisme mondial.
Philippe Collin.
Car son grand mérite, son honneur aussi, est d'avoir fait du marathon une épreuve athlétique. Il a effacé d'un coup 2000 ans de légende. Les foules n'ont plus guère maintenant matière à rêver, mais le sport y gagne une nouvelle dimension.
Sur France Inter.
Abebe Bikila, premier champion olympique issu de l'Afrique noire, avec un marathon historique à plus d'un titre. Et d'ailleurs, ce jour-là, à Rome, le 10 septembre 1960, cette dimension symbolique n'a pas échappé à un écrivain français qui était présent sur la ligne d'arrivée à Rome ce jour-là, oui, de cette course extraordinaire. Voici des souvenirs olympiques de Jean Giono.
Au point de vue sport, il y a un moment où moi, anti-sportif, où j'ai pris vraiment une bonne revanche et où j'ai fait une bonne rigolade. C'était aux Jeux Olympiques de Rome. J'ai été heureux le jour du marathon. Le jour du marathon, j'étais sur la ligne d'arrivée du marathon. Nous avons vu arriver une espèce d'elfe bondissant, joyeux et gai, pas fatigué du tout et pieds nus, qui venait de faire ses 40 km en valsant, qui est arrivé, pas essoufflé du tout, et qui a commencé à parler, à dire, à discuter, à raconter des petites histoires. Et après ça, nous avons vu arriver je crois que c'était le Français, à bout de force, liquide, on le ramassait à la petite cuillère. Les autres, ils étaient soutenus par des nourrices tout le long. Et on s'est demandé quel était ce personnage extraordinaire qui venait d'arriver comme ça, si fort, si magnifique et très beau. Et c'était un berger éthiopien qui avait couru pieds nus et qui a dit, c'est déjà fini. Mais c'est déjà fini, mais dans la journée, moi, derrière mes troupeaux, je cours beaucoup plus que ça. Et alors, en face de lui, il y avait des gens qui avaient été travaillés, non seulement par des soigneurs, non seulement par des ministres du sport, non seulement par des subventions gouvernementales, mais qui avaient été bichonnés, tripotés, grattés, poncés, lavés, briqués, et qui représentaient la France, l'Indochine, le Transvaal, la Nouvelle-Zélande, le Groenland, tout un tas de trucs comme ça. Et bien, tous ces types-là s'étaient effondrés lamentablement avant la ligne d'arrivée, alors que le berger éthiopien, qui n'avait été préparé par personne, était arrivé en danse.
Alors je vous explique la radio, la vie, le direct. Pendant le son de Giono, Sylvain Coher me dit « Giono mytho », je pense qu'il ment. Il explique la situation aussi bien, mais en fait, en gros, il devait peut-être être à Rome en 60, mais pas vraiment sur la ligne d'arrivée, parce qu'il décrit des choses qui sont pas vraiment le réel, hein, c'est bien ça?
Je pense.
Il est écrivain, quoi, il invente. Hein.
Ça se faisait beaucoup, enfin, pour les intellectuels, c'était la fête, les jeux, c'était l'endroit où aller.
Bien sûr.
Boire quelques cocktails, je crois, il y a plus de 2000 journalistes accrédités à Rome en 1960. Oui. Mais ce qu'il dit là, c'est les commentaires qu'il sont parus après dans la presse.
Sûr,
donc j'ai toujours un petit doute quand il dit qu'il arrive, qu'il se met à parler. Non, quand
oui, c'est vrai.
On a des images d'archives où
il
on
ne
voit.
Parle pas.
Et puis Bikila, c'est pas le genre à parler. La seule phrase qu'il ait fait après cette course-là. Après en 64, il a ce qu'on appellerait aujourd'hui des instruments de langage un peu.
Oui. Mais il a regagné le marathon à Tokyo 4 ans plus tard. Hein,
avec des chaussures.
Avec des chaussures cette fois, oui.
Mais du coup. Ça moins bon.
Oui, oui.
mais en 1960, la seule chose qu'il dit aux journalistes quand tout le monde lui tombe dessus, c'est j'ai toujours rêvé de porter un survêtement avec marqué Éthiopie dans le dos. Mm-hmm. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est en effet ce que j'ai fait, n'importe quel autre soldat pourrait le faire.
De l'armée éthiopienne aurait pu le faire. Voilà, absolument.
Oui. Et je pense.
Et Giono le dit pas.
Je pense que c'est ce qu'il pensait vraiment.
Voilà, Giono mytho, m'a dit Sylvain Coher.
Mais son texte est très intéressant parce qu'il dit d'autres choses en fait. Il donne aussi les contours de ce qu'est finalement le mythe ou la légende d'Abebe Bikila, c'est-à-dire un fait politique et un fait qui interroge tout le monde sur la préparation des athlètes, avec une donnée aussi qui est très importante pour 1960, c'est les premiers jeux en Mondovision et en Eurovision. Donc c'est l'avènement de la publicité, c'est-à-dire qu'à partir de 1960, les sportifs ont commencé à recevoir de l'argent. Abebe Bikila, il amène tout un continent sur la scène internationale. Il est célébré, je crois qu'il y a plus de 100 000 personnes qui l'attendent en Éthiopie.
Quand il rentre au pays.
L'empereur lui offre une coccinelle.
Oui, une voiture.
Voilà.
Une Volkswagen.
Une Volkswagen coccinelle. on est loin des joueurs de foot.
Oui, bien sûr.
Et bon, il y a quelque chose de simple et de beau, et c'est ce que dit Giono aussi, et je pense que cette chose-là est importante, même si c'est pas tout à fait vrai.
Oui, exactement. Giono mytho. Fabien Archambault, je rappelle que tu es historien d'Italie et du sport. Revenons en deux secondes quand même sur ces pieds nus. Ils sont quand même très importants parce qu'il y a à plusieurs titres. On peut voir effectivement l'Africain sans ressources, d'un point de vue un peu colonialiste, ou l'Africain qui n'a besoin de rien pour vaincre, donc aussi une vision un peu émancipatrice. C'est une course en modovision, donc en effet, on va voir ce coureur, ce marathonien issu de l'Afrique noire, qui triomphe sans chaussures, pieds nus, c'est aussi les pieds nus de toute l'Afrique finalement, de tous les déshérités.
Oui, de ce point de vue-là, hein, vous l'avez dit, pour la mondiovision, ça devient une des premières grandes icônes planétaires, c'est-à-dire qu'on ne se souvient pas forcément de son nom, mais on se souvient du marathonien pieds nus qui continuait à courir.
Après la ligne d'arrivée.
Voilà, ma grand-mère me disait ça, mais elle ne savait pas qui c'était.
Mais elle s'en souvenait, très bien.
Elle s'en souvenait. Ouais. Alors c'est aussi les pieds nus, puisqu'on est à Rome, qui est un des berceaux de la chrétienté, c'est utilisé par toute une partie du mouvement catholique italien dans ce qui est quasiment une préfiguration de Vatican II. L'idée que l'avenir de l'Église...
62 Vatican II, donc voilà. Très près de...
L'idée que l'avenir de l'Église, ce sera le tiers-monde, ce seront toutes ces masses qui sont en train d'être...
Ces pèlerins au pied nu.
De s'émanciper. Oui. Et donc on fait toute une... Voilà, c'est finalement le dernier parcours, le dernier tronçon, il est sur la Via Appia, c'est là où il y a les catacombes, c'est là où ont été enterrés les premiers chrétiens martyrs. Il surgit de la nuit, à la lueur des flambeaux, et il rentre dans Rome, comme le Christ dans Jérusalem, pieds nus. Et donc voilà, il y a cette idée de « les derniers seront les premiers ». Et ce sera véhiculé par tout le mouvement missionnaire catholique dans toute l'Afrique noire. C'est eux qui les photos, les films, en gros, ils s'empareront de cette figure pour dire finalement c'est un frère chrétien parce qu'il vient de l'église orthodoxe éthiopienne. Et donc il y a l'idée de dialogue œcuménique. Il faut se réconcilier avec cette Afrique qu'on a oubliée jusque-là. Donc on tourne la page du fascisme,
oui, bien sûr,
et du colonialisme.
Oui, évidemment.
Tout à l'heure je disais c'est une commode à tiroir parce qu'en même temps on peut prendre, l'arrivée par la Via Appia, pieds nus sur Axum et
Axum, c'est l'obélisque
l'obélisque volé aux Éthiopiens.
Mussolini a volé aux Éthiopiens.
Sur un parcours éclairé tous les 50 mètres par un militaire italien. Qui tient un flambeau pour ce jeune soldat de 28 ans, faire une entrée comme ça au forum dans l'Italie éternelle vers l'endroit de la discorde qui a été jusqu'en 2010 le sujet de la discorde, l'obélix Axum, c'est un vol. Voilà, il fallait le rendre, c'est un peu encombrant à rendre, mais il fallait le rendre. Et c'est à partir de là qu'il accélère, c'est à partir de là
qu'il gagne. Finalement.
Mais on peut encore ouvrir un autre tiroir de cette commode, qui est pourquoi, par exemple, alors c'est une question, mais pourquoi dans le film Marathon Man de Schlesinger,
avec Dustin Hoffman,
tout le générique, c'est Abebe Bikila qui court. Alors ok, il y a le marathon qui les réunit, mais parce qu'on est aussi sur une icône. Peut-être une icône, finalement on s'en fiche des temps, aujourd'hui en plus ils sont obsolètes, les temps de la course du marathon, il y aura peut-être la fameuse barre des 2 heures qui, si elle tombe, comme le souhaitent des grands équipementiers qui subventionnent beaucoup pour que cette barre mythique tombe, mais sinon le score n'est pas très important, c'est l'effort, et finalement dans cet effort-là, ce qu'on reconnaît tous, c'est peut-être... je vais éviter la grande formule, mais comme un sport primordial, une espèce de primauté du sport. Et ce type l'incarne comme aucun autre. Et finalement, alors on peut oublier son nom, mais oui, le coureur au pied nu, c'est l'homme du marathon.
Et oui.
Et quel que soit on a des supers athlètes en ce moment qui viennent d'Éthiopie ou d'ailleurs, mais il restera quand même comme une espèce d'icône, de représentation. Et je pense que dans ce tiroir-là, il y a aussi tout ce que ça représente d'un effort pieds nus. C'est un geste sportif pauvre, dénué, et qui finalement nous fait aimer aussi ce geste-là, peut-être plus que la performance.
Il faut préciser, Sylvain, qu'il a choisi lui-même de courir pieds nus, parce qu'il avait aussi une corne particulière qui pouvait créer beaucoup d'ampoules en portant des chaussures.
C'est
pas une chose qui s'est... Ouais. Il se l'est imposé, il a choisi de courir pieds nus. C'est aussi un acte quasiment politique de dire, en fait, je vais courir moi pieds nus, laissez-moi tranquille, je cours pieds nus.
Alors ça pourrait, par contre, on est en train d'en parler, c'est vrai qu'après 1960, tout le monde s'est demandé pourquoi il courait pieds nus. Suivant les courants ou ce qu'on veut mettre derrière, tout le monde a trouvé des réponses. Lui a toujours été formé là-dessus. Il courait pieds nus parce que les chaussures lui donnaient des ampoules, qu'il avait énormément de cornes sur les pieds pour s'entraîner pieds nus sur des pistes caillouteuses. Et que finalement, bon, son entraîneur n'était pas très d'accord, mais lui, il a pris cette option-là comme une option que lui trouvait la meilleure pour être performant.
Fabien, un mot sur la manière d'écrire de Sylvain Coher. Je sais que tu as lu ce livre. On est embarqué avec Abebe Bikila. C'est une sorte de dialogue interne. D'ailleurs, on va y revenir rapidement, mais je pense que vous devez courir dans la vie parce que vous décrivez si bien le corps qui court. C'est même très impressionnant. Donc, on est avec Bikila à Rome en 60. Je sais que tu connais très bien Rome et tu connais très bien l'histoire de Rome. C'est vrai qu'on est c'est immersif. On a l'impression d'être à Rome en 60 dans la foulée de Bikila.
La première chose que je me suis demandé, c'est j'ai trouvé le parcours étrange. C'est-à-dire que aujourd'hui, le marathon se court, on peut partir du Capitole ou du Colisée, mais on va sur Longoté, les rives du Tibre, et on monte vers le nord, jusqu'au stade olympique, où ça aurait fait une arrivée classique. Et là, ils choisissent d'aller vers le sud, et alors là, on voit bien la mise en scène de l'Italie de la modernité. C'est-à-dire que les deux tiers de la course, en gros, c'est la Via Cristoforo Colombo qui va vers l'Eur, qui est le quartier fasciste qui avait été prévu pour l'exposition universelle de 41 qui n'a pas eu lieu du fait de la guerre. Et à un moment donné, il passe sur le GRA, qui est le périphérique romain qui vient d'être construit justement pour les Jeux. Donc il y a l'idée de la Rome qu'on va vous montrer à travers le parcours du marathon, c'est essentiellement la Rome de la modernité économique, du périphérique, de la voiture, du miracle économique. Et en même temps, après... le passage par la Via Appia Antica, et quand on est tout touriste qui est passé là-dessus, où c'est quand même des pavés romains qui datent de 2000 ans, et c'est quand même très... Et on se dit, ils ont fait passer des coureurs de marathon qui vont à 19-20 km/h à la lueur
des torches
de nuit.
Et on sur se ces dit, pavés-là.
Mais effectivement, dans le livre, on se dit, mais il va se fouler la cheville, c'est pas possible.
Il va se tailler le pied.
Qu'il ne tombe pas.
Bien sûr. En fait. Oui, c'est assez incroyable. Sylvain, vous courez ou pas alors? Parce que cette écriture, qui est une petite prouesse littéraire, c'est performatif, on a l'impression de courir avec un bébé, parce qu'en fait, on est avec son corps, en fait.
J'aimerais tellement répondre oui. Je pense à tous les gens qui me connaissent, qui écoutent cette émission et qui doivent dire s'ils répondent oui.
Quel escroc.
On appelle France Inter.
On dira Giono Mito, voilà, c'est un Coher Mito, en fait.
Non, je cours pas.
D'accord.
Voilà. Je suis...
Mais quelle connaissance de ce corps dans l'effort de la course, alors, parce que c'est très bien écrit.
Je fais un travail documentaire. J'ai écrit un livre sur la moto sans faire de moto.
D'accord.
Là, j'écris sur un coureur. Et peut-être même c'est ma chance de pas courir parce que du coup tout me posait question.
Et oui.
J'ai fait un gros travail documentaire pendant plusieurs années avec des interviews de coureurs avec toujours la même question. Je leur demandais à quoi vous pensez quand vous courez ou qu'est-ce qui se passe quand ceci, quand cela. Et donc je me suis documenté. Oui.
Fabien.
Et c'est vrai qu'il se fait un seul ravitaillement avec un quart d'orange seulement ça.
Un seul ravitaillement. Ouais, c'est impressionnant.
Le record du monde.
C'est impressionnant.
Quand même. Et la phrase de son entraîneur est ça ne sert à rien, ça te fera perdre que du temps. Voilà.
Gagnons du temps, il faut gagner la course. Revenons quand même deux secondes à cette fin de vie qui est tellement romanesque. Donc il va gagner en 64 à Tokyo. À Mexico, en 68, pour des raisons de blessure, il doit abandonner le marathon au bout du 17e kilomètre, je crois. L'année suivante, en 69, il y a un accident de voiture tragique en Éthiopie, dans la coccinelle offerte par l'empereur. À quoi ressemble la fin de vie de Bikila, Sylvain Coher?
C'est un peu triste, il aurait presque pu mourir à 33 ans dans sa coccinelle. Et là, ça aurait
le
été
Christ.
Parfait.
Voilà.
Mais non, c'est un peu triste parce que oui, en 64, il gagne à Tokyo. Et là, pour le coup, il fait un vrai score, enfin un score... en 60, il bat déjà un record du monde, mais en 64, il est très très performant et personne ne sait pendant qu'il court qu'il a été opéré de l'appendicite 40 jours avant. Et ça, c'est complètement fou, même médicalement, de tenir ce rythme-là.
Oui, c'est incroyable.
Mais il tient. à Mexico en 68. Il est obligé d'arrêter au 15e kilomètre parce qu'il a une fracture du péroné, je crois. Mmh. En 69, il a cet accident de voiture où il passe toute la nuit sous sa voiture avec les cervicales brisées.
La nuque brisée, voilà, exactement.
Et il se retrouve en fauteuil roulant. Alors les images, on le voit où il s'est épaissi, il a une grosse barbe. Et on voit qu'il, enfin voilà, c'est plus l'image, quasiment l'icône de 60 ou 64 d'Abebe Bikila. Mais il continue le tir à l'arc en fauteuil. Et il score au tir à l'arc en fauteuil, parce que je crois qu'il gagne deux compétitions au tir à l'arc. Mmh. Il continue la course en e-sport
en fauteuil roulant.
En fauteuil roulant. Voilà. Et là, j'imagine que dans son entourage, on se dit, il continue, il va gagner, il va gagner des e-sports. Et en fait, il a un accident.
Hémorragie cérébrale.
Une hémorragie cérébrale.
En 73.
En 73. Voilà. Et voilà, qui le terrasse à ce moment-là.
65 000 personnes à ses obsèques, dont l'empereur Sélassié, donc une des obsèques nationales et un héros national. Pour finir rapidement, Fabien, revenons au temps présent, à l'Italie d'aujourd'hui, dans cette Italie qui va pas très bien. Il se trouve que ce Bikila revient sur la scène internationale. En fait, c'est devenu une sorte de héros antifasciste aujourd'hui, finalement, Bikila, en Italie d'aujourd'hui.
Oui, alors ça a été tout de suite, dès 1960. Alors, on n'a pas le temps de développer, mais l'été 60 a été très compliqué. Alors, ça peut faire des échos avec ce qui se passe aujourd'hui. La démocratie chrétienne pensait gouverner avec le parti néo-fasciste. Il y a eu des grosses manifestations début juillet. Il y a eu une dizaine de morts en Italie. Et au courant du mois de juillet, c'est la gauche de la démocratie chrétienne qui l'emporte. Et en gros, Aldo Moro, le secrétaire du parti, dit « la démocratie chrétienne est un parti antifasciste ». Et c'est la première fois qu'il l'assume de ce côté-là. Et pour lui, et la figure de Bikila est mise en avant, c'est un moyen, dans une ville où le parti néofasciste est très fort, à Rome, c'est un moyen de dire « on a tourné la page, regardez, il a gagné là où les esclaves vaincus défilaient pour les triomphes romains ». On est passé à autre chose maintenant.
Oui. Bikila, figure antifasciste. Sylvain Couer, en deux secondes, très pressé.
Juste une question pour l'historien. C'est pourquoi toutes les représentations aujourd'hui d'Abebe Bikila viennent d'Italie? C'est-à-dire, il y a une plaque sur la Colombo, le seul film sur sa vie, sa biographie.
Fabien, tu as 15 secondes.
Il est devenu très important pour à la fois la gauche italienne et les catholiques italiens, comme l'idée d'une nouvelle Italie.
Merci, bravo, magnifique Fabien Archambault. Ouais. Merci à vous deux, ça s'appelle Vaincre à Rome, c'est Sylvain Coeur, cette édition Actes Sud, merci à vous deux. Ne quittez pas l'écoute, car voici maintenant le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous et bonne rentrée.
Merci beaucoup. Que trouve-t-on dans ce Give Me Five ce soir?
Eh bien, ce dimanche 1er septembre, Colin, on commence avec un big up. Hein. Bah oui, parce qu'on n'a pas changé.
Et non.
Durant l'été. Donc un big up à une tenniswoman américaine qui a été mise à l'honneur ce lundi 26 août à l'occasion de l'ouverture du tournoi de l'US Open. Hein. 60 ans après ses exploits, avec l'inauguration d'une statue à son effigie, donc au Centre National de Tennis, hein, dans le Queens, à New York. Et cette athlète, c'est Althea Gibson. Alors, Althea Gibson, moi, j'en avais vraiment, je suis honnête, hein, jamais entendu parler.
Eh bien, moi non plus.
Voilà, et c'est un article passionnant du journal Le Monde qui nous raconte le destin de cette athlète, de cette femme, plus de 4 décennies avant l'avènement des Sir Williams, qui raconte comment Gibson fut la première femme noire à remporter un titre du Grand Chelem, c'était à Roland-Garros,
et oui,
en 1956. Elle aussi, Althea Gibson, a 30 ans, à Wimbledon, qui réalise une première historique en soulevant la coupe sur le gazon londonien devant Madame Elisabeth II en personne.
Et oui.
Pas rien. Et l'athlète qui est morte en 2003, qui était née en 1927 en Caroline du Sud, donc classique, dans des champs de coton, vraiment très très peu connue en France, mais vraiment pas plus connue aux US, c'est elle qui aura fait dire à Serena Williams, deuxième joueuse noire à remporter un tournoi du Grand Chelem, donc en 99 après Gibson, hein, c'est quand même hallucinant, « Althea m'a donné du bonheur et la fierté d'être noire. Elle a été pionnière pour tout le tennis, pas seulement pour le tennis féminin. » Donc Althea Gibson, voilà, pour qu'on ne l'oublie plus.
On poursuit avec les sœurs Williams, je crois.
Hein. Ouais, surtout Serena.
Serena,
on aime beaucoup Vénus.
Oui, alors allons-y, Serena.
Voilà, et alors en pleine US Open, je voulais juste vous parler d'une info que j'avais vue cet été, que j'ai notée, qui m'a fait sourire. Le très sérieux site The Cut a relayé les résultats d'un sondage dont l'intitulé était le suivant. Si vous jouiez votre meilleur tennis, pensez-vous que vous pourriez marquer un point contre Serena Williams. Eh bien, ce que le résultat met en avant, parce que je ne vais pas tout vous faire, c'est juste la confiance des hommes, hein, toujours comme d'hab, puisque 12% assurément, bien sûr. Évidemment, quelle question, battre la championne américaine contre 3% et encore au moins un point, hein, si ce n'est plus, hein, parce que franchement, faut pas exagérer, Serena, ça reste quand même une fille.
Ben oui, évidemment. Là, on va au Brésil, c'est ça, je crois, maintenant, pour la suite, Joy.
C'est ça. Et alors, on ne peut pas dire qu'en ce moment, au Brésil, tout soit particulièrement au beau fixe.
Non, hein, ça c'est
ce
sûr.
Voilà. Si on pense aux incendies qui ravagent la forêt amazonienne.
Ne serait-ce que ça, par exemple.
Ne serait-ce que ça, voilà. J'ai vraiment pris juste un truc. Hein. Voilà. Mais cette semaine devrait faire date dans l'histoire du foot brésilien et aussi dans la défense des droits des LGBT, puisque la Cour suprême brésilienne de la justice du sport a annoncé que les insultes homophobes seraient désormais sévèrement punies dans les stades. Et attention, les clubs des fans sanctionnés perdront désormais 3 points,
eh oui.
Ce qui est hallucinant,
eh oui.
En cas de délit. Voilà. Et alors, en cas de récidive, la peine sera carrément doublée.
6 points. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant comme sanction.
Voilà, hein. C'est vraiment
on devrait y penser pour le championnat de France.
Sanction, donc hein. Ça n'éteint pas les
le
feux
stress,
de forêt.
Le stress pour tout le monde. Ouais. Ouais, perdre 3 points, c'est très lourd sur une saison.
Ah, mais c'est hallucinant. Ouais, voilà. Les feux de forêt sont là, mais c'est quand même un beau progrès.
Exactement. Une autre touche d'espoir, je crois, maintenant.
Ouais, ouais, l'environnement, toujours. Comme quoi, je vous dis, moi, je suis hyper optimiste.
Oui, l'espoir par le sport.
C'est ça. Et face à l'urgence de la situation un peu partout dans le monde, le ministère allemand, lui, de son côté, a lancé un projet appelé Alliance pour le développement et le changement climatique. C'est un mouvement hyper important. Et le club de football d'Offenheim a décidé de le rejoindre tout de suite en devenant le premier club à s'engager comme ça en Allemagne. Objectif, bilan carbone neutre pendant toute la saison.
Eh ben.
Ce qui paraît assez dur à accomplir, mais pourquoi pas. Donc moins de déplacements en avion, plus d'engagements écologiques, d'échanges locaux.
Tout le monde en bus.
Bien sûr. On va y aller, vous laisser aller, Colin. Et puis alors voilà, développement aussi de moyens dans la forêt ougandaise. Enfin, voilà, on leur souhaite d'y arriver et de
donc
servir d'exemple.
C'est le club d'Offenheim en Allemagne. Ton conseil culturel pour finir, Joy.
Bah oui, on ne change pas, on finit comme ça. Mon conseil culturel, c'est un documentaire que vous pouvez voir et revoir sur le site d'Arte. Ça s'appelle L'histoire de Colin Kaepernick. Donc Colin Kaepernick, ce quarterback métis américain hein, qui un jour de septembre 2016 pose un genou à terre pendant l'hymne américain pour protester contre les violences policières. Donc ce documentaire nous montre comment le sport est devenu, maintenant on commence à le savoir, mais une arme politique américaine, nous montre aussi qui est véritablement Colin Kaepernick et quelles étaient les intentions du footballeur. Et alors ce qu'on apprend et que j'adore par exemple, c'est comment en fait, comment l'idée est venue à Colin Kaepernick de poser un genou à terre en guise de protestation. Eh bien, figurez-vous, messieurs, que c'est l'idée d'un vétéran.
On s'est retrouvé à l'hôtel où son équipe était hébergée. C'était un jour de match. Et on a discuté pendant 2 heures. Et j'ai compris que c'était un type sensible. Il cherchait juste un moyen de faire passer son message. Il ne voulait pas offenser l'armée. J'ai essayé de le convaincre de rester debout, mais rien à faire. Alors j'ai dit, l'autre option, ce serait que tu t'agenouilles. À ma connaissance, ce geste n'était associé dans aucune culture à une marque d'irrespect. Il a trouvé que c'était une bonne idée et que ça aurait même plus de poids que de rester assis.
Excellent documentaire, Joy.
Génial.
Excellent. Le documentaire qui s'appelle L'histoire de Colin Kaepernick, c'est donc à revoir sur le site d'Arte en replay à ne pas manquer. Merci beaucoup, Joy. À la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Salut
bye.
Et merci pour cette première émission de la saison 5. Merci à Marco Mutel, évidemment, aux manettes ce soir et à Nicolas Cazot qui le supplée. Merci à Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. On se retrouve la semaine prochaine avec Guy Drut. Oui, Guy Drut, une autre histoire d'athlétisme. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans L'œil du tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité.